Bonjour, ici Laurent Martin qui vous parle depuis chez lui pour ce cours enregistré. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien, j'espère que vous respectez les consignes de sécurité. Nous en avons visiblement encore pour quelques semaines à rester chez nous et donc évidemment la fin de l'année universitaire apparaît extrêmement compromise. Néanmoins, je ne veux pas abandonner ce cours et les étudiants en rase campagne. C'est pourquoi je vais donc réaliser ces enregistrements audio que je vais déposer sous deux formats, en fichier Quick Player et en fichier MP3. Cet enregistrement est réalisé grâce au logiciel Quick Player. Donc j'espère que vous ayez un Mac ou un PC, vous serez en mesure d'écouter cet enregistrement. Ces enregistrements, puisque je vais en faire plusieurs, seront accompagnés, comme d'habitude, des PDF correspondants au cours, ainsi qu'un certain nombre de documents que je posterai également sur l'ENT. Je vais donc faire ces enregistrements à la fois pour le cours Institutions et politique de la culture, du jeudi matin à 8h-10h, et pour le cours Histoire culturelle de l'Occident contemporain, de 12 à 14 heures. J'aurais dû poster évidemment ces enregistrements dès hier, puisque c'était hier que nous avions cours, normalement, mais le temps de mise en place est un peu long. Je ne suis pas très familier de ce type de format, et donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour réaliser un cours qui se tienne pour cet enregistrement. Pour ce qui est de l'évaluation, puisque donc il y aura probablement là aussi une adaptation des modalités d'évaluation, en ce qui me concerne, et jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à consigne générale qui viendrait de l'université, je considère que l'évaluation est toujours d'actualité, qu'elle doit être évidemment adaptée en fonction de la situation et en fonction des situations concrètes. Bien entendu, je ne demanderai pas, je ne ferai pas de contrôle de connaissances comme j'avais prévu de le faire, puisque nous ne pourrons pas nous réunir. Je demanderai donc aux étudiants, à chacun d'entre vous, de m'envoyer un fichier PDF de 3 ou 4 pages. Répondant à un certain nombre de questions que je poserai sur l'ENT. Je n'ai pas encore tout à fait réfléchi à ces questions, ce sont des questions peut-être plus réflexives que purement factuelles. Vous aurez droit évidemment non seulement à vos notes, mais à d'autres documents. Bon, et j'évaluerai évidemment en fonction de ce cadre assez particulier d'évaluation. Pour autant, moi je ne suis pas partisan de donner à tous une note plancher qui serait de 10 ou de 12. Je pense que ça serait déresponsabiliser les étudiants. Je serai évidemment très compréhensif et d'ailleurs les questions que je poserai également iront dans ce sens pour que chacun soit en mesure de travailler correctement. Je n'évaluerai pas de la même façon évidemment. Un devoir qui m'est rendu sous forme de fichier PDF à distance et un devoir évalué sur table. Néanmoins, je crois nécessaire, utile, souhaitable que chacun continue de travailler dans la perspective, bien sûr, de l'évaluation et dans la perspective du passage à l'année prochaine. Je ne suis pas partisan, à vrai dire, de donner à tous une sorte de blanc-seing, une sorte de chèque en blanc pour le passage à l'année prochaine. Bon. Encore une fois, d'autres consignes seront peut-être données au niveau de l'université. Je les suivrai, bien évidemment. Mais pour l'instant, en tout cas, je considère que cette évaluation doit avoir lieu sous des modalités, encore une fois, à définir et qui seront conçues pour ne pas pénaliser les étudiants, c'est évident. Je vais commencer par le cours donc Institutions et politique de la culture. C'est l'objet de ce premier enregistrement. Nous avions encore 3 séances prévues d'ici à l'évaluation. Je vais en faire en réalité 3,5 puisque je n'avais pas terminé la fois dernière le cours de présentation des institutions culturelles. Je m'étais arrêté à la fin de la première partie qui était une présentation juridique ou du cadre juridique de ces institutions. Et je vais dans une deuxième sous-partie présenter d'autres institutions qui sont un peu des institutions paradoxales dans la mesure où elles se présentent comme des contre ou des paras ou des anti-institutions. D'une part, les centres culturels de rencontre, d'autre part, ce que l'on a pris l'habitude d'appeler des tiers-lieux. Dans les deux cas, ce sont des lieux un peu hétérotopiques, au sens où l'entendait le philosophe Michel Foucault, c'est-à-dire des lieux réels, des lieux effectifs. Mais qui sont en même temps des utopies, des sortes de contre-emplacements où la culture est présente, mais en même temps contestée, inversée, des lieux qui se présentent donc comme des anti- ou des contre-institutions. Alors d'abord, premier point, donc je renvoie encore une fois hein, au PDF qui accompagnera ce cours enregistré. Premier point, donc les centres culturels de rencontre. Qu'est-ce qu'un centre culturel de rencontre? Alors si je me réfère à la loi de 2016, 7 juillet 2016, qui est la dernière grande loi du ministère de la Culture relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le terme centre culturel de rencontre est un label attribué par le ministère de la Culture à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande. Cette personne morale doit présenter une autonomie de gestion, mais également investir un site patrimonial ouvert au public visant à restaurer ou entretenir ce lieu en suivant un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec l'État ou une collectivité territoriale. Ces lieux de patrimoine sont fortement impliqués dans la promotion de la culture, de l'éducation et du développement territorial. Le label a été créé en 1972 à l'initiative de Jacques Rigaud, qui était alors directeur de cabinet du ministère de la Culture, et il tend à mettre en avant ces lieux de mémoire et de création qui visent à développer l'interdisciplinarité, la création artistique, les pratiques artistiques émergentes, la transmission des savoirs au public, l'aménagement et le développement culturel du territoire local. Les centres culturels de rencontre sont en effet conçus de plus en plus d'ailleurs comme de vrais leviers touristiques, permettant de revitaliser des territoires, en valorisant le patrimoine français et la création artistique. Je cite ici Jacques Rigaud, donc, qui est un peu le concepteur de ce réseau des centres culturels de rencontre, qui a été notamment donc, président de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, qui est l'un des premiers sites de ce réseau des centres culturels de rencontre. Par ailleurs, donc, ancien président de l'Association nationale et de la Commission nationale des centres culturels de rencontre. Je le cite donc, j'ouvre les guillemets. Création pragmatique. Les centres culturels de rencontre sont par leur genèse et par leur nature fort éloignés de l'esprit de système, à la fois cartésien et jacobin, qui marque les institutions françaises. C'est peut-être ce qui fait leur originalité dans le paysage culturel. Pour employer un langage philosophique, on peut dire que, s'agissant de ces centres, l'existence a précédé l'essence. L'idée de redonner vie à un monument historique en y situant une activité intellectuelle ou artistique de notre temps revient à des particuliers ou à des collectivités territoriales. Ainsi, dès avant la Seconde Guerre mondiale, la famille Gouin Gouin, ça s'écrit Gouin, la famille Gouin avait décidé de créer un centre de colloque dans l'abbaye de Royaumont, dont elle était propriétaire. Et le département du Doubs, en Franche-Comté, avait dans les années 60 décidé de restaurer la saline royale d'Arques et Senans, bâtie au XVIIIe siècle par un architecte visionnaire, Claude-Nicolas Ledoux. Ledoux, Ledoux. Ce sont ces exemples, donc Royaumont et la saline royale d'Arques et Senans, qui ont inspiré Jacques Duhamel, ministre des Affaires culturelles au début des années 70. Dans l'héritage d'André Malraux, il avait trouvé non pas une, mais deux politiques culturelles. Une politique du patrimoine, ambitieuse et savante, centrée sur la restauration des grands monuments comme Versailles, Vincennes et les cathédrales, et une politique de l'action culturelle, tendant notamment à la création des maisons de la culture. Ces deux politiques n'ayant guère d'interrelation. Duhamel pensait que l'effort public en matière de patrimoine, qui demandait de gros moyens financiers, ne serait supportable durablement pour la collectivité nationale que si un certain nombre de monuments étaient en quelque sorte recyclés dans la vie sociale de notre temps, et notamment dans la culture vivante, en étant dotés d'une mission allant au-delà de la simple visite touristique. Procédant à l'inventaire des actions en cours, Jacques Duhamel me fit part dès les premières semaines du risque qu'il pressentait d'une divergence ou d'un éclatement de la politique culturelle. Une politique du patrimoine, d'essence conservatrice, et une politique de l'action culturelle, dérivant vers la contestation. Soucieux de l'unité, de la cohérence de la politique culturelle, il m'invita à chercher des occasions de faire de hauts lieux du patrimoine des centres d'excellence dans le domaine de la création et de la culture vivante. C'est dans cet esprit qu'il encouragea la relance des chorégies dans le théâtre antique d'Orange et qu'il apporta pour la première fois un concours financier de l'État au Festival d'Avignon. Mais les exemples précités de Royaumont et d'Arc et Senan le conduisirent à souhaiter que des hauts lieux du patrimoine monumental deviennent des centres de création intellectuelle et artistique à vocation d'excellence. Deux monuments appartenant à l'État lui donnèrent l'occasion de lancer des études en ce sens. La chartreuse pontificale du Val de Bénédiction à Villeneuve-les-Avignon et l'abbaye royale de Fontevraud, restituée par le ministère de la Justice qui en avait fait une prison. C'est en 1973, avec le concours actif et imaginatif de la Caisse des monuments historiques, devenue depuis Centre des monuments nationaux, que se créa de manière discrète et quasi informelle l'Association des centres culturels de rencontre, avec les quatre monuments précités, auxquels se joignirent un temps l'abbaye de Senanque dans le Vaucluse, le couvent royal de Saint-Maximin dans le Var, l'écomusée du Creusot. Ultérieurement, de nouveaux lieux furent reconnus comme centres culturels de rencontre, par exemple la corderie royale de Rochefort dans la Charente-Maritime, l'abbaye aux Dames de Saintes en Charente, ou encore le château du Grand Jardin à Joinville en Haute-Marne. Je cite toujours Jacques Rigaud. On chercherait en vain un texte de loi ou même de décret officialisant cette création. Il faudra attendre 1992 pour qu'une charte définissant l'esprit et la mission des centres et réglant leurs relations avec le ministère de la Culture soit signée entre le ministre et le président de l'association. Et 1997 pour qu'un décret institue une commission nationale chargé de proposer au ministre l'attribution du label de centre culturel de rencontre, jusque-là décerné par l'association elle-même. La création de cette commission a été l'occasion d'une relance des centres, voulue par les ministères de la Culture, et accompagnée par nombre de départements et de régions qui ont compris que cette formule était un outil majeur pour l'aménagement culturel du territoire. Aujourd'hui, compte tenu du retrait ou de la suspension du label pour un certain nombre de centres qui, pour des raisons variées, n'ont pu réaliser leurs projets culturels, on compte 15 centres culturels en rencontre. Je rappelle que ce texte de Jacques Rigaud date de 2004. Les chiffres ont évolué depuis, je le dirai tout à l'heure. Les centres ont des activités très diverses, mais toutes tournées vers la création et l'activité artistique et intellectuelle de haut niveau, qu'il s'agisse de la littérature, par exemple à l'abbaye d'Ardennes, en Normandie, des écritures du spectacle, comme la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, de la musique vocale, de la poésie et de la danse, comme à Royaumont, des cultures de la mer, comme dans la corderie royale de Rochefort, etc. Par définition, les centres culturels de rencontre ont une activité permanente tout au long de l'année, et ont le plus souvent une fonction de résidence pour créateurs et interprètes. Leur statut est très variable, principalement des fondations ou associations. Les monuments sont la propriété de l'État, ou d'une collectivité locale, ou encore d'une fondation. Et leur financement est assuré de façon également très variable par l'État et les collectivités territoriales, ainsi que par les ressources trouvées auprès de partenaires, notamment dans le cadre du mécénat d'entreprise, et par les recettes engendrées par les activités, ainsi que, le cas échéant, celles résultant du prêt de locaux pour des manifestations extérieures compatibles avec la vocation du lieu. Typiquement, à Royaumont, par exemple, ils louent une partie de leur bâtiment pour des entreprises qui font des séminaires d'entreprises, par exemple, et ils ont une activité également de réception pour des particuliers. Ce statut très particulier, cette diversité de régimes et de missions, cette souplesse aussi, font l'originalité et la force des centres, dont on a pu dire qu'ils constituaient des ports francs de la culture, ce qui leur permet d'avoir des équipes très motivées, très stables, capables de mener un projet sur la longue durée. Selon des modalités variables, d'autres pays européens ont aussi créé des centres de culture vivante dans des hauts lieux du patrimoine, de l'Irlande à la Hongrie, du Portugal à la Pologne, de l'Italie à la Belgique, à la Finlande. Un réseau européen s'est ainsi constitué qui fait de ces centres une des armatures de l'Europe de la culture, illustrant à la fois sa prodigieuse diversité et son unité profonde. Je ferme les guillemets, c'est donc Jacques Rigaud qui s'exprimait, j'ai complété sur certains points, mais c'est grosso modo Jacques Rigaud qui parlait. Ce réseau européen des centres culturels de rencontre est une dimension importante des centres culturels. Il regroupe des institutions qui ont pour caractéristique commune d'être implantées dans un monument ou un site d'intérêt majeur sur le plan architectural, historique, scientifique ou esthétique, des sites qui sont qui doivent être ouverts à la visite touristique. Ce sont des monuments ou des sites qui font l'objet d'un partenariat avec les collectivités territoriales et avec l'État, qui sont dotés de statuts variables, on l'a dit, mais qui garantissent l'autonomie de l'établissement, ainsi que son caractère non lucratif et son ouverture au public. Ces centres culturels de rencontre ont également pour point commun de mettre en œuvre d'une manière permanente sur l'année un projet culturel et artistique qui vise dans un domaine défini à développer des actions de recherche, de création et de rencontre. Enfin, ils participent à des actions d'aménagement du territoire. Donc, le réseau de l'association des centres culturels de rencontre a une double problématique de valorisation, celui d'un site patrimonial et celui d'un projet artistique et culturel. Tout ceci, ces centres culturels tentent de les faire coexister dans une intégration professionnelle tente donc d'associer ces différentes dimensions. L'association des centres culturels de rencontre fait le choix d'appartenir à différents réseaux européens qui soutiennent le même type de projet. Parmi ces réseaux, je les cite sans m'y attarder, on peut citer donc Culture Action Europe, European Heritage Alliance, European Alliance for Culture and the Arts. Tout comme ces différents réseaux européens, l'association des centres culturels de rencontre multiplie les expérimentations, encourage, accompagne toute une série de projets. Ce réseau regroupe aujourd'hui une quarantaine de membres, dont près de la moitié en France. C'est un réseau européen, mais quand même très dominé, disons, enfin, où la majorité des membres, en tout cas, sont en France. Il y a 23 sites patrimoniaux français qui détiennent ou sont en cours d'obtention du label Centre culturel de rencontre. Et on compte également donc une vingtaine de sites dans le reste du monde, essentiellement en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Océanie. Je crois également, oui, il doit y avoir un site au moins en Amérique du Sud. L'ensemble de ces lieux sont des lieux de patrimoine, donc dédiés à des projets artistiques, culturels et scientifiques ou scientifiques novateurs. L'association, le réseau européen, enfin, se donne pour mission principale de coordonner en France et de développer à l'international les centres culturels, de favoriser le rayonnement régional, national, mondial de ces lieux en partant de leur enracinement local. Le but de l'association, et là je cite donc la présentation que l'on peut trouver sur le site de l'association des centres culturels de rencontre. Le but de l'association est de favoriser les échanges entre les pays, d'entamer un dialogue entre les cultures en favorisant les bonnes pratiques. Alors, sur le PowerPoint, j'ai placé notamment une carte des centres culturels de rencontre que l'on peut trouver donc sur le site. Et j'ai placé également des photos. Alors, j'ai pris l'exemple d'un centre que je connais bien, que j'ai souvent fréquenté, qui est le Centre international de Cerisy-la-Salle, qui se trouve dans le département de la Manche, en Normandie, dans un château du XVIIe siècle. J'ai mis notamment donc, une photographie de ce château entouré d'un parc et la photographie également de la bibliothèque qui accueille une partie des colloques organisés à Cerisy, puisque l'activité principale de Cerisy est d'organiser des colloques alors universitaires, pas seulement universitaires en l'occurrence, dans tous les domaines, même si de fait c'est plutôt des universitaires qui les organisent, mais pas seulement dans le domaine, en tout cas, des sciences sociales et humaines, il y a des colloques de littérature, de psychanalyse ou de sciences, une quarantaine de colloques par an, donc ce qui en fait une activité très, très dense, hein, une saison qui ouvre au printemps normalement et qui se ferme à l'automne. Évidemment, dans la situation présente, et très malheureusement pour Cerisy, ces colloques ne pourront pas avoir lieu, en tout cas au début de la saison. Vous pouvez vous rendre, hein, sur le site de Cerisy et trouver un certain nombre de documents, notamment le programme bien sûr de l'année, et vous verrez l'éclectisme, la très grande diversité des colloques qui sont proposés à Cerisy. C'est un lieu qui gagne à être connu, hein, auquel on peut se rendre, y compris pour assister à des colloques sans être soi-même un spécialiste des questions traitées. Ce sont des colloques ouverts au public. Le principe de Cerisy est que l'on réside sur place pendant la durée du colloque, qui sont souvent des colloques alors, dont la durée standard est d'une semaine. Hein. Donc vous voyez, on vit en collectivité, il y a une forme d'expérience de vie en collectivité, en groupe, en communauté même, on pourrait dire en communauté intellectuelle, pendant quelques jours dans le château et ses alentours. Jacques Derrida, qui a été, le philosophe Jacques Derrida, qui a été très souvent invité à Cerisy, qui a participé à de nombre de colloques de philosophie et d'autres, d'ailleurs, domaines à Cerisy, décrivait Cerisy comme le modèle d'une contre-institution. On retrouve cette idée de contre-institution qui caractérise un peu ces lieux que je tente de décrire aujourd'hui. Une contre-institution où l'esprit veille comme s'il guettait du haut d'une tour les signes de ce qui sera et fera demain l'avenir. Donc une contre-institution destinée non pas à s'opposer, mais à équilibrer, à questionner, à ouvrir, à occuper les marges. Une institution où l'on traite des intersections plus que des disciplines académiques. Un autre, alors lui est plutôt un anthropologue, Yves Wincain, Winkin, Yves Wincain décrivait le Centre culturel international de Cerisy comme un lieu sans doute unique au sein de cette classe de lieux intellectuels parce qu'il constitue un véritable familistère accueillant trois générations de la même famille et la famille étendue des participants qui sont plongés dans cette saga familiale. Alors c'est vrai qu'il fait allusion au fait que aujourd'hui encore, le Centre culturel de Cerisy est dirigé par Edith Ergon, qui se trouve être la fille d'Anne Ergon, qui a dirigé auparavant donc, le Centre culturel de Cerisy. Anne Ergon étant elle-même la fille de Paul Desjardins, qui avait fondé au début du XXe siècle, un centre culturel de rencontre, même si le terme n'existait pas encore à proprement parler, alors non pas au château de Cerisy, mais à l'abbaye de Pontigny qui se trouve en Bourgogne. Et c'est lui qui a vraiment lancé ce modèle des lieux de rencontre intellectuelles où des spécialistes viennent débattre de questions importante pendant plusieurs jours. Et donc, Paul Desjardins, qui a fondé l'abbaye de, enfin, non pas fondé l'abbaye de Pontigny, mais fondé les décades de Pontigny dans l'abbaye donc du même nom, a ensuite passé le relais à sa fille, qui a fondé donc les rencontres de Cerisy au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est aujourd'hui donc sa fille, Edith Orgon, qui dirige le centre culturel, le centre international de Cerisy-La Salle.